The Family Stone Dance to the Music, donc Sly Stewart qui nous a quitté le 9 juin 2025. Il avait 82 ans, donc fondateur de Sly and the Family Stone, et on va dire un des trois gros piliers du funk des années 60-70. On va se calmer. On écoutera Family Affair plus tard peut-être. Donc, comme je disais, un des trois grands piliers du funk, on va dire, avec James Brown et George Clinton. Donc George Clinton, qui a donné Parliament Funkadelic, et James Brown, qu'on ne présente plus normalement pour les auditeurs de My God Brain. Donc Sly Stone qui est né en 43. Donc Sly Stone qui était basé plutôt en Californie. On va dire que James Brown, c'est la Géorgie, si je me souviens bien. Donc, le sud, down south, donc sud-est. Et George Clinton, on va dire que c'est plutôt le Midwest, hein, si je me souviens bien. Puisqu'il allait notamment faire des petits voyages du côté de Detroit, il a essayé de travailler avec Tabla Motown. Il faut que je précise tout ça, mais bon, c'est pas tout à fait le sujet. Donc Sly Stone, Californie du Nord. Donc Sylvester Stewart, multi-instrumentiste, qui travaille d'abord à la radio KSOL, donc en 64, et ensuite qui devient plus ou moins producteur. Et qui, on va dire, il accompagne un peu le mouvement psychédélique, acid rock, etc. Il va travailler avec des gens comme les Bob Brummels, comme Grace Slick, donc de Jefferson Airplane. Et il va fonder donc un groupe donc qui mélange la soul et le rock, notamment l'acid rock de l'époque. Donc dans le groupe, il y a son frère Freddie Stone à la guitare, il y a sa sœur Rose au cœur et je crois un peu au cuivre. Il y a le batteur Greg Errico, il y a Jerry Martino au saxophone, Non, c'est pas sa sœur qui est au cuivre, c'est Cynthia Robinson qui a la trompette et Larry Graham à la basse, hein, celui qui a inventé le... Comment ça s'appelle la technique avec le pouce voilà, le slapping. Et ce groupe, donc groupe multiracial, puisque Greg Errico et Jerry Martini, je crois, sont blancs. Donc Greg Errico, le batteur. Groupe multi, enfin groupe mixte, hein, puisqu'il y a des femmes et des hommes. Il y a la, Cynthia Robinson et Rose Stewart. L'un des premiers du genre, quand même. Hein. Donc, le groupe démarre en live à partir de 66, enfin en concert à partir de 66, et le groupe va notamment s'illustrer à Woodstock. Donc les tubes, c'est Dance to the Music, Everyday People, Family Affair, qui notamment sera plus ou moins repris, enfin utilisé par Arsenic pour une affaire de famille, pour les, ceux qui ont la référence. Et donc le groupe démarre très fort, mais notre ami Sly Stone aura du mal à résister comment dire, aux attraits du succès, à savoir la drogue et les femmes. Donc lui, le sex, drug and rock and roll, il l'a vécu à fond. Et on va dire à partir de 73, c'est fini pour le Sly and the Family Stone qu'on connaît, puisque déjà, il fait un concert sur deux, voire sur trois. Le groupe, il commence à virer les gens à droite à gauche, et on va dire voilà, la cocaïne va faire des ravages, la farine, comme dirait monsieur Stevie de Music Phoenix, mais comme moi je passe pas sur YouTube, je peux employer les termes. Donc on va écouter un bout de live de Sly and the Family Stone, sachant que donc il y a le fameux album There's a Riot Going On qui a inspiré Public Enemy pour son album de 99 There's a Poison Going On. On va écouter, comme je disais, un bout de live. C'est je crois que c'est extrait de l'émission comment s'appelle l'émission ? Une émission américaine. Enfin, le nom m'échappe, mais je vais retrouver ça. Je vais vous retrouver ça. Alors, l'émission dont j'ai oublié le nom, c'est Midnight Special. Genre, en fait, je confonds avec 38 Special, donc le nom du pistolet. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas parler avant d'en être sûr. Donc, l'émission dont je parle, l'émission américaine bien connue donc, pour les variétés. Mais il y en avait d'autres. Hein. C'est Midnight Special qui a accueilli notamment les Ohio Players, Kiss, les Metteurs et pas mal d'autres groupes. Bon, il y avait d'autres émissions. Il y a par exemple l'émission de Ed Sullivan dans les années 60. Enfin voilà, il y a pas mal de shows américains intéressants pour tout ce qui est années 60-70. Mais là, alors c'est pas Midnight Special, c'est encore une autre. Mais voilà, donc on continue à écouter Sly and the Family Stone. Ça date de 69. C'est un medley apparemment, hein, les morceaux sont pas en entier. Family Stone. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que donc Dawn Silva donc, et Lynn Mabrid des Brides of Frankenstein ont travaillé avec Sign the Family Stone avant de rejoindre l'équipe Funkadelic Parliament. Et il y a notamment un passage où Sign the Family Stone a sauvé Dawn Silva des griffes d'un certain Huey P. Newton, je crois que c'est une rencontre en 74, je crois, ou dans ces eaux-là, enfin, si je me souviens bien de son bouquin, où elle s'est vraiment trouvée en fâcheuse posture. En fait, Sly connaissait Huey. Et donc, ils ont fait une petite visite, je crois, des quartiers généraux des Black Panthers, ou de Huey Newton. Et. Apparemment, ça s'est mal passé et il a fallu que Sly arrange un peu les choses et libère, entre guillemets, Dawn Silva. Je ne me souviens plus du passage du bouquin, il faudrait que je le relise. Alors, on va écouter un extrait de Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Et si vous êtes sage, un peu de Brides of Frankenstein également. Si vous êtes sage uniquement. Hein.
Noël sur femme.
She's the man who made like a you, boy. Who made like a you.
You are as free as you want to be. Your ass will follow.
If it were mine, and I want a way out,
looking for a real man in your ass, we fuck up.
Donc, Funkadelic, donc Plainfield, New Jersey, c'est là où était basé George Clinton avec son salon de coiffure. Et donc, il allait aussi à Detroit, dans le Michigan. Donc, c'est comme ça qu'il a notamment bossé avec des futurs... je crois qu'il y avait quelqu'un qui allait travailler dans le groupe de Minnie Riperton. J'oublie le nom. Il faudra que je révise. Autour de lui... réunis par Bill Bass Nelson, qui au départ est guitariste, donc vont se former les Funkadelic, donc avec Eddie Hazel, avec Bernie Worrell, Tiki Fullwood, donc Tiki Fullwood c'est la batterie, Donc il y a Tol Ross et Eddie Hazel aux guitares. Donc Funkadelic, Free Your Mind or Your Ass Will Follow, donc second album. Et ah oui, j'oublie aussi de préciser que dans la série produite par BET à propos de l'émission Soul Train de Don Cornelius, donc American Soul, on voit brièvement donc George Clinton et Funkadelic. Et on voit aussi Sly and the Family Stone qui cherche à faire entrer dans le studio d'enregistrement de l'émission un lama. Enfin voilà, on voyait qu'il est déjà bien parti, notre ami Sly Stone. On va écouter, comme je disais, un morceau des Bites of Funkenstein. Et le morceau que je vous ai choisi, c'est I'm Holding You Responsible, je vous tiens pour responsable. C'est extrait de leur second album Never Buy Texas from a Cowboy.
Yeah.
C'était donc les Brides of Frankenstein, I'm Holding You Responsible. Et à propos des Brides of Frankenstein, pour ceux qui aiment le P-Funk et notamment les groupes comme Parlette, Brides of Frankenstein, il y a le bouquin de Seth Neblett, Mothership Connected, donc Women of Parliament Funkadelic, qui va sortir en septembre. Je pense qu'on va précommander ça. Voilà, donc après le bouquin de Dawn Silva, donc un autre point de vue sur les artistes féminines liées à la galaxie Parliament Funkadelic, notamment Malia Franklin. On a déjà parlé de Malia Franklin, donc qui est donc la mère de Seth Neblett. Malia Franklin qui a quand même présenté Bootsy Collins à George Clinton, donc qui a quand même un grand rôle dans la galaxie P-Funk. Et donc et qui était aussi la leader de Parlette pendant un moment. On écoute, qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? On va écouter une autre légende des années 60-70 et plus loin qui nous a quittés. C'est Brian Wilson des Beach Boys. Et on va commencer par le morceau, comment il s'appelle le morceau ? God Only Knows. À condition de le retrouver.
As long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
God only knows what I God only knows that. Donc des, je me mets à chanter en plus, des Beach Boys, donc composés par Brian Wilson, qui était le génie du groupe, qui est à la base le bassiste des Beach Boys, et donc avec ses frères, hein, et puis ses frères, ses cousins et un ami du groupe. Donc c'est ça la composition des Beach Boys. Pet Sounds de 1966, je crois, l'album des Beach Boys, est à classer au même niveau qu'un Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band des Beatles, donc de la pop ambitieuse. On pourrait éventuellement mettre aussi le Forever Changes de Love, entre autres albums importants de ce milieu des années 60. Enfin, album au sens ambitieux, hein, pas juste de la pop. J'ai envie de dire presque immédiate. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On va écouter un extrait d'une partie de documentaire sur Brian Wilson. Écoutons.
You still get ideas for different ways to produce things sound. Mm-hmm. Yeah.
Well, usually, you know, recording is a little slower these days. Mm-hmm. You know.
What's your process like?
Process?
Yeah.
Start with a background track.
Mm-hmm.
Then you do the background vocals, then you do the leads.
Okay.
Like we'll do today.
Can I be on keys?
That's correct.
What's been making you feel like making a rock and roll record?
I don't know. Well, actually, Summer Days and Summer Nights was a rock and roll album.
Yep.
But I'd like to do another one with the covers, mm-hmm, instead of original.
Mm-hmm. Is your click okay?
How do you feel about spending a few days with your band?
I think it'd be nice to be back with them, you know?
It's about time we all recorded like this.
And we are here.
I'm nervous.
It's like you say when you go on stage, nervous for about 2 minutes.
Right, and then as soon as I hear California Girls, I'm cool.
You got this.
One, two, three. Yeah. No, man,
are you sure it's
that? Yeah, that's it. I'll play the piano.
Yeah! Now we're talking.
Hi, Wes.
How you doing, Brian?
I'm good. How are you?
Doing all right.
Okay.
Party Tom!
Hi, Tom.
Hi, Brian.
How are you?
Good. How are you?
Good. We need a click, Wes.
It's coming.
What's coming?
The click.
Oh. Okay, it's cool. The click will help you.
Okay.
One, two, three. Paul?
Yeah?
It's just... No, what?
Okay.
One, two, three. Hey, Paul?
Yeah?
Play staccato. Bop, bop, bop.
Okay.
Yeah.
Ooh.
One, two, three, four. Hold it. The guitar sound a little fuzzy.
See if that's better.
Okay, one, two, three, four. Yeah, we're cool. Let's try one.
Okay.
Yeah, it can fall apart. That's cool.
That's pretty good.
I think that's a print.
Donc c'était Brian Wilson qui démarrait un morceau. Donc on va dire c'est le j'ai envie de dire c'est le pré-maquettage là. Ils sont en train d'expérimenter, de voir comment ça tourne, voilà comment ils sont tous en mesure. Donc il y a tous les musiciens sont là. C'est pas chacun dans son coin qui fait son truc. C'est tout le monde joue ensemble. Oui, je commente la vidéo pour ceux qui n'auraient pas vu. Alors, là, on est dans une atmosphère Ugly Things, j'ai envie de dire. Ugly Things Magazine, vous savez, le magazine américain qui sévit depuis 1984 et qui part surtout des années 60-70. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué notamment Love. Alors, dans les derniers numéros, il parle d'un groupe qui s'appelle Plasticland, un groupe du Midwest, qui retrouve un son 60s. Hein, on appelle ça, entre autres, le mouvement Paisley Park. Et alors, je crois que les Bangles étaient aussi dans ce mouvement au début, avant d'éclater et donc de sortir du carcan underground revival 60s. Des années 80. Mais là, nous, on va écouter deux morceaux de Plasticland. Tout d'abord, Non-Stop Kitchen. C'était donc Non-Stop Kitchen et on poursuit avec un autre morceau de Plasticland. Où est-ce qu'il est le morceau ? Magic Rocking Horse. Alors, qu'est-ce que je voulais préciser ? Oui, ce qu'on a écouté sur Brian Wilson, c'était pas dans les années 60, c'était dans les années 2000 et donc il était en solo, hein, c'était pas avec les Beach Boys. Donc on écoute alors Plasticland, oui, je suis en train de lire donc leur story donc dans le dernier Ugly Things, Et donc leur premier album qui s'appelle Wonder Wonderful Wonderland est sorti sur un label français, le label Lolita. Parce qu'en gros, alors c'est un groupe américain, je précise, mais ils se sont dit que parce qu'aux États-Unis ils ont sorti plusieurs EP à entre 500 et 1000 ou 2000 exemplaires. Et bon, ils se sont dit, il faut quand même qu'on sorte un album. Et le bassiste du groupe, qui s'appelle John Frankovic, est parti en Europe pour démarcher, donc en Angleterre d'abord et en France ensuite, pour démarcher. Donc il est parti avec une valise de EP. Et en gros, il dit dans l'interview, il a eu de la chance parce qu'à Rough Trade, ils ont accepté pas mal de ces EP en dépôt-vente. Donc, ça va. Alors, les EP, il les a pris aussi pour démarcher les labels, hein, pas seulement pour les vendre. Et donc, arrivé à Paris, sa mallette était plus légère. Donc, il arrive, il demande l'adresse de Lolita. Et en fait, le label Lolita était basé à l'arrière-boutique de Jukebox. Jukebox, et en fait, ils écoutent le disque. Alors, il faut savoir qu'il ne parlait pas bien français, notre ami John Frankovic. Il écoute et il dit qu'il y a quelqu'un qui est le dos tourné, qui dit oui, il faut signer ce groupe. Et la personne qui est dos tourné, c'est Jacques Leblanc, qui est en fait le boss du magazine Jukebox, qui a arrêté de sévisser il y a quelques temps, qui s'est arrêté, Jukebox Magazine, donc qui s'est arrêté il y a quelques temps. Magazine très intéressant, hein, pour les aficionados, donc bah justement de la période années 50, 60, 70. Que ce soit en français ou à l'international. Enfin bref, ils ont signé, donc c'était un deal pour un album, et en fait l'album c'est une espèce de best-of de l'époque, c'est-à-dire qu'ils ont mis des morceaux des EP qu'ils ont sortis et donc quelques inédits. Donc on écoute extrait donc de Wonder Wonderful Wonderland de 85, le morceau Magic Rocking Horse.
They never seem to stay. But
C'était donc Plastic Land et je pense qu'on va vous mettre un petit bonus. On va vous mettre par rapport au bouquin de Luca Fox donc sur les débuts de Motorhead. J'ai envie de mettre un petit morceau de Motorhead justement. Mais en attendant, on va écouter un morceau de Snow White.
Oh,
Donc Motorhead par Motorhead, le line-up de l'époque, c'est Larry Wallis aux guitares, donc qui joue dans les Pink Fairies aussi. Vous avez Lucas Fox à la batterie et vous avez donc Lemmy à la basse et au chant, donc premier line-up de Motorhead. Et on découvre comment le groupe naît. Donc Lemmy vient de se faire virer de Hawkwind quasiment en pleine tournée aux États-Unis. Lucas Fox, il est batteur de groupe de glam rock, enfin à ce moment-là, de groupe qui ne décolle pas plus que ça en fait. Hein. Il y a des histoires d'ego, de maisons de disques, etc. Et donc Larry Wallis, avec les Pink Fairies. Alors tout ce petit monde se côtoie dans différents bars dans Londres. Et donc, Lucas Fox nous raconte tout ça. Donc, il nous raconte les débuts de Motorhead, comment il se fait éjecter parce qu'il y a une baston, une rencontre un peu musclée avec des breakers. Et il trouve que Lemmy a un comportement un peu douteux. Mais les deux musiciens resteront proches au cours du temps. Et voilà, donc après on apprend donc que lui il est remplacé donc par un certain Phil Animal Taylor. Et puis donc Larry Wallis, il va quitter le groupe après lui et il sera remplacé donc par un certain Fast Eddie Clarke. Voilà, donc on voit la naissance on voit les premiers fans qui arrivent et donc Lemmy qui est très sympathique, je trouve, avec les fans de cette époque. On va dire que dans les fans de Motorhead, il y a les fans qui suivaient Lemmy dans Hawkwind aussi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire ? On va dire que en fait, la façon dont Motorhead se crée et évolue, c'est vraiment comme un groupe punk rock en fait. Ils se débrouillent avec les moyens du bord, etc. Bon, il y a le côté aussi sulfureux avec l'imagerie deuxième guerre mondiale de Lemmy, mais c'est évoqué, mais voilà, on voit clairement que Lemmy n'est pas nazi ni néo-nazi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, on va maintenant passer à quelque chose de la même époque, mais plus sombre. C'est le post-punk de Malaria, puisque la musicienne Christine Anne, qui faisait partie du groupe, nous a quittés le 28 mai. Alors on va écouter du Malaria, et puis on va écouter un groupe contemporain, allemand aussi. C'est bien entendu Exmal Deutschland, enfin c'est bien entendu, dans ma tête en tout cas, c'était Exmal Deutschland. Écoutons donc Malaria pour commencer, et le morceau... Kaltes, klares Wasser.
Das kaltes, klares Wasser. Thank you.
Alors, en fait, à l'époque donc, du morceau Kaltos Klaus Wasser, donc là, c'est un concert de 1981. Christine Anne n'est pas encore là, elle arrivera après. Donc, nous, on va écouter, comme je disais maintenant, Ex-Mal Deutschland avec Mondlich.
We'll be right back. Bon, d'abord, bonjour à tous. Voilà, c'est vrai que Thomas, ici présent, n'est pas forcément le joueur le plus connu sur le marché. Il sort de 6 mois dans une équipe africaine camerounaise qui est le tonnerre de Yaoundé. Je crois qu'il a fait ses preuves devant le but. Il y avait maintenant une volonté d'abord pour ce joueur de revenir en France à l'aube de la Coupe du Monde pour essayer évidemment d'intégrer l'équipe. On est ravis de cette arrivée à Toulouse. Juste dire qu'il nous reste la visite médicale. C'est un joueur qui a eu très peu de pépins physiques. À 38 ans, c'est vrai que, excepté le petit problème qu'il a eu avec l'alcool il y a quelques années, je crois que c'est un joueur qui est assez robuste. Donc, je pense que cette signature sur 2 ans va être un très bon élément pour l'équipe toulousaine. Voilà. Oui, ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait, je crois, d'abord dans le besoin de renforcer cette équipe. Et comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette ambition brésilienne, cette ambition de voir mon joueur à la Coupe du Monde cet été. Donc pour nous, c'était un challenge. C'est vrai que de la même manière que Eto avait choisi la Russie pour des histoires d'argent, Yaoundé, c'était un peu l'objectif. Maintenant, on a pris ce qu'on avait à prendre là-bas. Place à nouveau au jeu, j'ai envie de dire. Bah les choses se sont passées d'abord, vous connaissez à chaque fois le mercato, les problèmes que ça représente, ça fait beaucoup de bruit, on a voulu éviter les rumeurs, on a préféré faire les choses dans la discrétion, sachant que c'est un joueur qui a été beaucoup demandé parce que les performances africaines sont rarement mises en avant via les télévisions européennes, donc le FC Toulouse a eu la bonne idée d'aller dénicher, d'avoir je dirais des têtes chercheuses qui vont au fin fond de l'Afrique, moi je les ai vus aller voir des petits matchs de brousse tout simple, où on n'imagine pas avoir ce type de personnage. Et malgré ça, voilà, je crois que c'est aussi ça qui récompense le travail des têtes chercheuses toulousaines.
Bah, moi, j'avais comme challenge vraiment de retrouver vite le haut niveau. Bon, c'est vrai qu'à l'aube de la Coupe du Monde en Brésil, bon, je voulais jouer mon Vatou, quoi. Bon, j'ai vu là actuellement, comme il y a Benzema, il y a le procès de Zaya qui était encore dans l'actualité. J'ai dit, bon, peut-être j'ai un coup à jouer. Bon, il a été relaxé là cet après-midi. Bon, c'est pas grave. Maintenant, moi, l'objectif là, c'est de donner le top du top pour vraiment, bon, mettre 4 buts, 6 buts. Et voir que M. Deschamps puisse voir que je suis revenu à mon niveau avant mon départ au Cameroun. Maintenant, bon, l'objectif, voilà, c'est vraiment de retrouver ce maillot bleu que j'aime tant. Le TFC m'a proposé ce challenge. Et il y avait des clubs comme Chelsea qui m'ont contacté. Bon, il y avait beaucoup de concurrence entre Dembaba, des joueurs comme Eto, fils, qui, bon, j'ai eu le téléphone, il m'a dit, il fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, qui peuvent encadrer des joueurs comme beaucoup de grands joueurs. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment nous permettre d'atteindre l'objectif de la Ligue des Champions et pourquoi pas même le titre.
Est-ce que tu vas réussir à t'adapter avec
l'accent toulousain? Alors ça c'est une parodie de présentation de joueurs donc avec nos amis Fabrice Seboué et Tobin Guidjol. Donc Jamel Comedy Club et puis on va dire des gens qui sont liés à la West Coast française et à LPHA notamment. Alors, Thomas Guidjol qui a sorti un film qui s'appelle Indomptable. Alors on va vous passer la bande-annonce. Alors moi j'avais vu ce film, enfin je suis parti voir sans savoir de sans a priori on va dire. Moi je pensais que ça serait une comédie... bon, plus dans le style de Thomas Guidjol que Fabrice Seboué, donc comédie un peu douce amère, j'ai envie de dire, un peu comme Fastlane. Et en fait, c'est pas du tout. C'est l'objectif, c'est pas du tout d'être une comédie. Alors les gens ils parlent de polar. Moi, je pense que c'est inspiré d'un. Alors c'est un documentaire. Hein, j'ai appris qu'il s'appelle Un crime à Abidjan. Et on va dire que oui, c'est plus lié à un documentaire qu'à vraiment un film. Hein. C'est un polar. Oui, il y a un prétexte qui est la mort d'un policier. Le meurtre est élucidé à la fin. Oui, je divulgâche, hein, je spoil. Mais c'est pas ce qu'on retient le plus. Ce qu'on retient, en fait, c'est le quotidien d'un officier de police, donc à savoir Thomas Guijol. Et voilà, c'est plus ça, quoi. Donc c'est... on va dire, oui, c'est du cinéma d'auteur. C'est plus... du cinéma d'art et essai, on va dire, que de la comédie à la Case Départ ou le crocodile de... Comment s'appelait le film, là, enfin, où on parlait de joueurs de foot. Voilà. Là, on est dans autre chose. Alors, je ne suis pas sûr que le film soit couronné de succès au box-office, mais voilà, c'est tenté. C'est tenté. C'est du Thomas Guijol. C'est pas du tout, si vous pensez au stand-up et à ses sketchs, oubliez. Ça n'a quasiment rien à voir. Bon, il y a un humour que les Camerounais d'origine pourront percevoir, mais c'est pas le but. Alors, la bande-annonce maintenant, si on retrouve... Où est-ce que je l'ai mise, la bande-annonce ? Alors, X-Man. Bon, on va écouter, continuer d'écouter Thomas.
Oui, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu au niveau climatique, pour moi, un vrai changement temporel. Bon, maintenant, au-delà de tout aspect climatique, je crois qu'ici...
Alors, ça y est, j'ai retrouvé la bande-annonce, la voici.
Appel d'urgence, on signale le meurtre de l'officier de police Albert Koumné.
Ça veut dire qu'on peut mourir dans les bouchons dans ce pays. C'est.
Il y avait une vendeuse ici, n'est-ce pas? Une femme, elle faisait les beignets haricots.
Commissaire Bilong.
Son surnom, c'est Blacky.
Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé.
On peut travailler dans des conditions pareilles.
Sois pas présent pour ta famille. Ton travail a pris le dessus sur tout.
Le nom que tu portes là, c'est le nom de ma mère. Hein. Faut avoir un peu de conscience de ça.
Tu me parles encore et toujours des traditions.
Arrête de traumatiser les enfants.
Je protège
ma femme.
Non,
tu ne me parles pas fort.
Papa, tout à l'heure, on pourrait aller manger une glace.
Bah, concentre-toi sur les crafts d'abord.
On stoppe les mensonges. De toi à moi. Toi, tu es un homme, moi, je suis un homme. Je souhaite à personne d'être dans ma position là. Choisis entre laisser la violence perdurer ou l'exercer soi-même. Quelqu'un doit bien faire le boulot.
Voilà, donc Indomptable, ce film qui est sorti le 11 juin de Thomas Guijol. Est-ce qu'on vous met un petit bout de sketch autre?
Ça, l'Algérien est très patriote, très patriote. Vous me faites penser aux Américains à ce niveau. Je jure, les Américains sont trop patriotes.
Moi,
mais eux, c'est à l'extrême.
Vu, pas vu.
Trop à l'extrême. Je dis ça parce que j'étais en vacances aux États-Unis et je me suis retrouvé dans une de ces fameuses fêtes-là. Vous savez, dans les piscines, là, qu'on voit souvent dans les vidéoclips, là. I got the feeling, ouh, avec que des mecs baraqués, beaux gosses, là, la Brad Pitt. Moi, j'étais là au milieu avec mon corps de Somalien, tu vois, je sentais que je gênais, mais j'ai payé, moi aussi, j'ai le droit d'avoir un feeling. I got the feeling, ouh. C'est le français qui gâche tout. Jean-Louis, ramène-toi. Vous êtes un fatigué, ta gueule, ok. Cool, man, cool. Mais je vous jure, j'étais tellement à fond dans leur délire là, d'Américains là, tellement heureux et fiers d'être Américains, tous beaux gosses, huilés avec leurs gobelets rouges là, tellement ils étaient heureux. D'un coup, ils se sont tous mis à gueuler à l'unisson, sans raison aucune. Hein. USA! 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 c'est particulier quand même. Non mais t'imagines, toi, t'es tranquille à la piscine municipale de Vitry-sur-Seine et d'un coup tout le monde se met à gueuler France, France. Je veux dire, putain, c'est quoi cette piscine de fachos là-haut? Mais je te jure, ils étaient à fond dans leur délire. Et à un moment, il y en a un qui a vrillé, il était trop bourré, il a guéré. USA, USA, fuck Al-Qaïda. J'ai dit, mais c'est pas le lieu et l'endroit, tu vois. Mais ce con, il a donné des idées à un autre. L'autre l'a entendu, il a fait, yeah, fuck Al-Qaïda and fuck the Muslim. Et là, c'est devenu tendu, là. C'est devenu tendu parce qu'il y en avait deux qui gueulaient ça en me regardant droit dans les yeux, tu vois. Tu sais, les blancs avec les regards de fou, là, la Mel Gibson, genre, ah, j'adore la violence, tu vois. J'ai senti que ça devenait chaud, tu vois. J'ai été chercher ma chaîne directe, j'ai dit, hey, hey, cool man, cool. I'm chrétien, I'm chrétien, I'm chrétien. Je me suis transformé en pasteur en deux secondes. Oh Lord, in the name of Jesus, oh. Mais trop tard, mon ami, trop tard. Ils étaient déjà bourrés, faits à je ne sais quel alcool, et je suis désolé. Désolé, et je tiens sincèrement à m'excuser auprès de tous les musulmans dans la salle, mais j'étais en danger. J'ai pris 30 marches, je vous le dis tout de suite. Hein. Yeah! Fuck the Muslim, yeah, yeah! J'en ai même trop fait. Yeah, fuck Zidane, yeah, yeah! Yeah, remember the football? Terrorist, yeah! Et je me suis barré discrètement de la piscine. Parce que je sentais très bien que l'étape suivante, ça risquait d'être « Let's kill this nigger! Go back to Africa! » Ebola. Connerie d'Ebola, putain. Heureusement que ça s'est calmé, cette histoire, un peu. Je te jure, à un moment, c'était devenu même tendu d'être assis à côté d'un noir qui transpirait. Je sais de quoi je parle, je prends les transports en commun. Je peux vous dire, dès que j'étais à côté d'un noir qui était là, « Fou, il fait chaud, oh, va te vacciner, toi !» C'est ils tous là. La main devant la bouche, Mamadou. Malien. Bah. Ah là là.
Allez, et on va terminer avec un bout de live du groupe Tonnerre, du groupe canadien Tonnerre, donc où sévit Annick Giroux. Un bout de live, le début du live à Hambourg le 28 mai. C'est parti. C'était au Bambi Galore.
Good evening, Hamburg. We are from Canada. From French Canada. And we're here to rock. All right. Les flambeaux du ciel. We'll be right back.
parler.